Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bien sûr, vous n'êtes pas dupe. Le caviar et le champagne, les mots d'amour dans des palaces, vous n'en faites pas une fixation. Mieux, vous trouvez cela un peu bling-bling, vulgaire peut-être. Vous préférez les mots d'amour en question dans de charmantes petites chambres mansardées quelque part dans une grande ville ou dans des gîtes ruraux quelque part dans un paradis à l'herbe verte. Et les flirts dans les parcs publics à la lueur discrète d'un réverbère public, lui aussi. Et puis, déguster l'instant. Et aimer l'élégance en tout et les pirouettes finales enlevées. Et apprécier les Français qui parlent américain avec un accent délicieux ou comique. Et les Américains qui font craquer leur monde avec les prononciations étranges. Vous aimez, oui, vous aimez parce que nous sommes au cinéma. Tout cela, c'est du cinéma et qu'il s'agit de la Lubitsch Touch. Rediffusion d'un mardi du cinéma proposé pour la première fois sur France Culture le 3 mars 1992.
Pourquoi pas?
Mardi du cinéma, Ernst Lubitsch.
I don't care who you are or what you are. All I know is
what?
I love you.
Ernst Lubitsch.
You'll never go out of my life.
1892-1947.
I love you, my little Leonichka.
And I adore you, Leonichka. Go ahead now.
Ernst Lubitsch ou La Lune dans le Champagne. On me demande constamment. Comment parvenez-vous à ces touches qui impriment leur marque à un film? Y pensez-vous au moment du tournage? Est-ce que parfois ce sont les acteurs qui les trouvent? Ou bien sont-elles toutes décidées avant le début du tournage? Quand j'aurai répondu à ces questions et réglé ces petits problèmes, je vous aurai donné une bonne idée de mon rôle dans ce merveilleux travail, la fabrication d'un film. Le merveilleux travail d'Ernst Lubitsch pour de merveilleux moments donnés au cinéma. Qui nous livrera le secret de la Lubitsch Touch, de la subtilité de l'un des plus grands prestidigitateurs de l'image, dont nous avons suivi, à travers ses lieux fétiches à Paris, l'élaboration des plans les plus célèbres, pièce maîtresse d'un ouvrage d'art si aérien qu'on voudrait voyager à l'infini dans un fauteuil de cinéma. Jean Douché.
C'est un très grand cinéaste parce que c'est, je pense, un des cinéastes qui a le mieux saisi la... Enfin, on a parlé de touch, de Lubitsch touch. Employons-le ce mot pour, d'une autre façon, c'est-à-dire comment toucher, c'est-à-dire juste saisir la chose à saisir au moment où il faut la saisir. C'est-à-dire où mettre la caméra. Quel mouvement il faut faire au personnage, enfin aux acteurs. Quel mouvement faire à la caméra. Quelle lumière donner. Quel costume porter. Bref, la perfection dans le détail qui doit être invisible et illisible pour le spectateur. C'est-à-dire le jeu de la mise en scène la plus parfaite, qui pousse l'élégance à s'effacer elle-même de telle façon qu'on ne la voit pas. Alors ça, les très grands cinéastes ont énormément apprécié Lubitsch, Mizoguchi, Renoir, tous ces gens-là ont une immense admiration. Chaplin avait une immense admiration pour Lubitsch, inversement d'ailleurs. Et c'est pour ces raisons-là. Par ailleurs, il y a une autre raison, mais c'est la plus facile à comprendre, et par exemple qui est la raison pour laquelle Truffaut aimait tellement Lubitsch. Il y avait bien sûr la mise en scène, mais il y avait aussi le scénariste. Étant entendu que chez Lubitsch, la fonction scénariste-metteur en scène n'est pas séparée, elle est totalement liée. Par exemple, quand on dit que « To be or not to be » est le plus grand scénario de toutes les sortes de cinéma, comme le faisait remarquer très justement Truffaut, il vous est impossible, même si vous avez vu le film 50 fois, de raconter To be or not to be. C'est-à-dire que cela n'est pas traduisible par le récit littéraire ou oral. C'est un récit très clair que s'il est vu. C'est-à-dire que le scénario chez Lubitsch est toujours pensé en image. Pour l'image, par rapport à l'image, en fonction de l'image. Et c'est un jeu d'écho entre, disons, un récit linéaire, un dialogue, un mot, si vous voulez, et sa répercussion avec l'image qui devient un langage. Il y a un jeu de langage entre les deux. Et c'est là où il est complètement neuf. Il a en effet révolutionné le cinéma dans le jeu subtil du langage cinématographique.
Yeah? Mama, I called you. Imagine, Mama, we are decorating the window after closing hour, so we won't have to have dinner with the Laszlo. Isn't that wonderful? Yes, I knew you would be glad. Goodbye, Mama.
Six people, I ask, one day a year, to be so kind as to redecorate a window. And you have the nerve, Mr. Kralik, the oldest employee in the place who should set an example.
Mr. Maracek, you spoke like this to me yesterday. What did I do yesterday? The whole week you've treated me like this, and without any reason.
Without any reason?
Il est fils de tailleur dans le quartier de la confection de Berlin.
Jacqueline Nakache.
Il montre déjà à cette époque un goût certain pour le théâtre, beaucoup plus d'ailleurs que pour la confection, puisque son père veut évidemment faire de lui un tailleur. Et il fait de son mieux pour s'introduire dans les compagnies de théâtre. Notamment, il arrivera très vite à s'introduire auprès de la célèbre compagnie de Max Reinhardt. Et de toute façon, il est évident que dès cette époque-là, ce qui l'attire le plus, c'est la carrière de comédien. C'est important d'ailleurs parce que c'est une dimension de Lubitsch qu'on ne connaît pas trop. Il a été comédien dans tous ses premiers films allemands, notamment les premières farces, si vous voulez, dans lesquelles on le voit créer un personnage un peu grimaçant, un personnage extrêmement burlesque, mais déjà très très intéressant dans des films muets où on le voit créer un personnage de commis de la confection, qui est un petit peu cynique, un peu railleur, un peu donjouan, enfin qui a des tas de traits comme ça d'un type extrêmement marqué, et type d'ailleurs tellement marqué que très vite il s'est retrouvé un petit peu en panne dans la mesure où il ne pouvait vraiment qu'occuper ce genre de rôle. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a amené, c'est intéressant, à passer à la réalisation, puisque les autres ne pouvaient pas vraiment réaliser les films dans lesquels ils pouvaient jouer. Il a été amené à passer à la réalisation et à donc réaliser lui-même ses premiers grands films muets allemands. Alors bon, il y a quelques titres qui sont évidemment les plus connus, notamment La princesse aux huîtres, qui est un film complètement délirant, dans lequel il a révélé un certain nombre de stars féminines. Enfin, ses films ont été le lieu où se sont révélés un certain nombre de stars féminines allemandes. Alors celle-là, c'était aussi Osvalda, c'était une jeune fille blonde avec des grands yeux bleus de poupée qui était toujours en proie à une espèce de fièvre pseudo-sexuelle extrêmement, extrêmement amusante, évidemment. Il a aussi révélé Paula Negri, qui a continué sa carrière aux États-Unis, Annie Porten, dans Anne Boleyn. Anne Boleyn, bon, qui est par exemple un des grands films historiques qu'il a été amené à tourner dans la suite de sa carrière, puisque donc on peut dire que sa carrière allemande sur les films muets, enfin comporte deux parties. D'un côté, les grandes comédies, donc comme La Princesse aux huîtres, La Poupée, qui sont ce que les Allemands après appelaient des grosses films, c'est-à-dire des grands films dotés d'un énorme budget, des super productions, mais dans le registre comique. Et d'un autre côté, donc des grands films historiques, dont le plus connu est Madame du Barry, avec justement la célèbre Pauline Écrit. Et également un autre film qui a eu énormément de succès, qui était Anne Boleyn avec Annie Pourtaine. Ce sont, si vous voulez, les deux grandes orientations de sa carrière en Allemagne. Et c'est important de le savoir, parce que si Lubitsch nous est connu aujourd'hui, surtout comme cinéaste de comédie, plutôt que comme cinéaste comique, disons cinéaste de comédie, il faut savoir que c'est sur la foi et sur le succès de ces grandes fresques historiques qu'il est devenu aux États-Unis.
C'est essentiellement un homme de spectacle, qui pense tout en spectacle. Et l'historique, au départ, c'est la possibilité de spectacle avec des costumes, des lumières, beaucoup de personnages, bon, des drames qui ont été vécus, donc des drames qui ne sont pas trop vraiment inintéressants. Bref, des situations tout à fait exceptionnelles. Alors, il y a quand même chez Lubitsch un souci d'emblée de grande mise en scène à grand spectacle, qui va disparaître peu à peu. C'est-à-dire qu'il faudra... Le dernier moment de cette tentation du grand spectacle chez Lubitsch visible, ce sera les comédies musicales du début des années 30, et dont La Veuve Joyeuse est peut-être l'illustration la plus flagrante.
Lubitsch est passé du muet au parlant par le film musical.
Christian Viviani.
Il a fait 4 ou 5 comédies musicales avec Jeannette MacDonald et Maurice Chevalier essentiellement comme interprètes. En fait, il faudrait mettre un bémol là, parce que ce ne sont pas véritablement des comédies musicales. Ces films relèvent bien de l'opérette, c'est-à-dire donc d'une tradition bien européenne et pas vraiment américaine. Mais il a fait la plus belle version cinématographique de La Veuve Joyeuse.
Je resterai chez Maxime, c'est un lieu très intime, plus qu'elle ne vous en déplaise que la comédie française. Manon, Lison, Ninon, réveille-toi mon garçon, chez Maxime, en vitesse, et en buton, tiens l'assaut.
Maxime, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit chez Maxime, il va sûrement les films, c'est là que de coutume, on voit des femmes qui fument.
Chez Lubitsch, bon, Maxime, c'est fait pour danser le French Cancan, c'est fait pour
Yann Tobin.
Passer une soirée en compagnie de charmantes jeunes femmes qui se pendent tout au cou de Maurice Chevalier, après qu'il a poussé une petite chansonnette, Girls, Girls, Girls. Et c'est le lieu aussi du malentendu, puisque Jeannette MacDonald, qui est donc, elle, la veuve joyeuse, se fait passer pour une fille de Maxime parce qu'elle est tombée amoureuse de Danilo. Dans leur pays d'opérette imaginaire, ils se retrouvent tous les deux à Paris. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que le beau Danilo a été envoyé en mission secrète à Paris, justement pour l'épouser, elle, en tant que veuve la plus riche du pays. Et pour ça, je crois que cette séquence est à la fois une des plus belles séquences de tout le cinéma de Lubitsch et l'emblème de ce qu'on pourrait appeler le Paris lubitschien tel qu'il l'a rêvé, quoi.
Qui est-ce?
Une nouvelle. Comment t'appelles-tu, chérie? Fifi?
Bonjour, Fifi.
Qui est-ce?
Vous ne me connaissez pas?
Non.
Elle ne me connaît pas.
Tu ne le connais pas?
Non.
C'est Danilo.
Danilo?
Danilo? Attendez. Est-ce que ce n'est pas vous qui m'avez fait cadeau de ce bracelet?
Oh, écoutez, si je vous avais donné un bracelet, vous vous en souviendriez.
Et puis d'ailleurs, il ne donne pas de bracelet.
On pourrait peut-être s'asseoir.
Ce n'est pas intéressant ce soir. Il n'y a pas d'Américain.
C'est étrangère, hein?
Oui, mais je m'adapte très facilement.
En fait, derrière un style qui paraît immuable et complètement tourné vers la comédie, il a abordé des genres extrêmement différents. Il a fait quelques entorses à la comédie, c'est-à-dire l'année 1932 est à cet égard significative, puisqu'il tourne une adaptation qui est une comédie de boulevard, en fait, Trouble in Paradise, qui s'appelle en français Haute Pègre. Il tourne la même année son film le plus court, qui est un sketch, tout ça dans le registre comique pour Si j'avais un million. Et il tourne aussi son seul film dramatique parlant, qui est L'homme que j'ai tué. Alors c'est vrai qu'au parlant, on l'a complètement assimilé au phénomène de la comédie. Mais encore, dans la comédie, il y a différentes tonalités, différentes nuances. Bon, il y a des comédies extrêmement brillantes, chatoyantes et sophistiquées surtout, comme Haute Pègre, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des comédies beaucoup plus intimistes, des comédies que j'appelle boutiquières, parce qu'elles se réfèrent au petit monde, des petits commerçants, aux petits boutiquiers, etc. Ce sont des films comme Shop Around the Corner. Et puis, il y a également des comédies très boulevardières qui ressemblent un petit peu à du Guitry, par exemple, comme La huitième femme de Barbe Bleue, et des comédies philosophiques avec un véritable enseignement, comme To Be or Not To Be ou La folle ingénue, ses derniers films essentiellement. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de progresser, qui n'arrête pas de raffiner, en fait. On a l'impression que Lubitsch était foisonnant d'idées à tous ses débuts. Nous avons pu visionner plusieurs de ses premiers films allemands. Ça foisonnait d'idées, c'était un petit peu désordonné, c'était éblouissant pour cela, mais c'est vrai, assez désordre. Et à mesure qu'il avance, il enlève tout ce qui lui paraît inutile pour arriver à dans ses derniers films à véritablement l'essentiel, à toucher l'essentiel. Son style devient de plus en plus épuré et il atteint ce statut qui faisait dire à François Truffaut, parlant de lui, que c'était un cinéaste gruyère dont les trous sont délicieux, c'est-à-dire en fait qu'il arrivait à donner le maximum d'importance à ce qu'il ne montrait pas, à ce qu'il cachait derrière les portes, à ce qu'il dérobait au regard du spectateur, pour finalement réduire ce qu'il montrait uniquement à son stade évocateur et non pas à son stade de représentation.
Façon de mettre la caméra pour voir quelqu'un rentrer par une porte. C'est absolument exact, il n'y a qu'une place, pas 36. Mais tout le problème est, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on veut faire dire à la personne qui rentre par la porte ? Va-t-il rentrer d'abord par une porte officielle ? Va-t-il rentrer par une petite porte ? Ensuite, dans quel état va-t-il entrer ? Va-t-il entrer paisible, très paisible, ou simplement quotidien rentrant du travail, ou parfaitement en colère ? Bon, etc., etc. Alors, en effet, il n'y a qu'une place. Mais cette place-là est à chaque fois neuve, à déterminer, complexe. Alors ça, Lubitsch, évidemment, placer la caméra par rapport à une porte, ça, c'est tout Lubitsch déjà. Alors donc... Ça correspond tout à fait à lui.
Vous me parliez tout à l'heure de Lubitsch comme de quelqu'un qui sait donc saisir l'instant. C'est-à-dire que vous m'avez parlé de lui presque comme on parle d'un photographe.
Le photographe enregistre physiquement l'instant. C'est-à-dire juste l'instant à la fraction de seconde près. Lubitsch enregistre l'âme de l'instant. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien, mais alors plus rien du tout. C'est vraiment la qualité même de l'instant qui compte chez lui. Et un instant doit être goûté comme le meilleur des mets ou la meilleure des boissons. C'est-à-dire, tout instant chez Lubitsch est forcément caviar champagne. Il ne peut pas être autre chose. Donc, c'est la qualité suprême. Même si on a un humour très vif sur ce rapport de qualité et de luxe.
That's hotel life. In one room, a man loses his wallet. And in another room, a man loses his head.
Please, when I came here, it was for a little adventure, or a little game which you play tonight and forget tomorrow. But something's changed me, and it isn't the champagne. Well, the whole thing's so new to me. I have a confession to make to you. Baron, you are a crook. You robbed the gentleman in 253, 5, 7, and 9. May I have the salt?
Please.
Thank you.
The pepper too?
What? No, thank you.
You're very welcome. Countess, believe me, before you left this room, I would have told you everything. And let me say this with love in my heart. Countess, you are a thief. The wallet of the gentleman 253, 5, 7, and 9 is in your possession. I knew it very well when you took it out of my pocket. In fact, you tickled me. That your embrace was so sweet.
Il y a des dialogues éblouissants chez Lubitsch, mais c'est avant tout l'image qui est porteuse. Et au début de sa carrière, ce sont des idées visuelles qui arrivent en cascade, un petit peu désordonnées mais éblouissantes. Vers la fin, elles sont beaucoup plus ordonnées, parfois beaucoup plus rares, mais d'autant plus précieuses. Par exemple, prenons un de ses tout premiers films, comme La princesse aux huîtres. Eh bien, dans La princesse aux huîtres, il y a pêle-mêle des idées décoratives. Une idée décorative, par exemple, nous avons une immense salle d'attente avec une rosace extrêmement compliquée au sol. Et un personnage attend, on le fait attendre, et cette attente se traduit par le fait qu'il arpente toutes les rosaces et tous les méandres de cette décoration centrale. Et ça devient très drôle parce que c'est cadré de haut et donc on a cette chorégraphie très très comique. Dans le même film, on a un autre style de gag, lui basé sur la répétition et sur le gigantisme, plutôt qu'être basé, comme celui que je viens d'évoquer, sur un certain dépouillement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous avons un repas, et le rituel du repas devient comique par la répétition systématique et très régulière de tous les gestes, de tous les invités, des domestiques qui sont extrêmement nombreux. C'est une véritable chorégraphie, mais basée, elle, sur le gigantisme. Plus tard, il ne mêlera pas ce type d'idée. Il trouvera, dès le début du film, une ligne directrice et il n'en déviera pas. Bon, par exemple, Shop Around the Corner est basé sur l'intimisme. Et ce faisant, il diminue les gags au profit d'un ton tenu de manière très très régulière et très harmonieuse tout au long du film. Et il est difficile, c'est vrai, en parlant de ce film, d'évoquer un gag. On peut évoquer une scène, mais on peut pas évoquer un gag comme je l'ai fait à propos de La princesse aux huîtres. Mm-hmm. Pour moi, une des scènes les plus émouvantes et les plus belles de Shop Around the Corner se situe à la fin. Et ce n'est pas un gag, justement. C'est le moment où James Stewart révèle sa véritable identité à Margaret Sullavan. Et la scène évolue de l'arrière-boutique à la boutique elle-même, qui est déserte puisque tous les employés sont partis.
C'est la veille de Noël.
C'est la veille de Noël. Et dans cette scène, James Stewart est obligé de démolir l'image de l'amoureux idéal que Margaret Sullavan a en tête pour qu'elle ne se fasse plus d'illusions et pour lui apprendre qu'en fait, cet amoureux idéal qu'elle aimait par lettre, c'est lui-même. Donc, il détruit cette image par ses paroles en lui faisant voir tout d'un coup la mesquinerie, l'absence de générosité, le ridicule de cet amoureux qu'elle ne connaissait qu'épistolairement et qu'elle avait idéalisé. Et à chaque illusion perdue, correspond à une lumière qu'on éteint. C'est-à-dire qu'à mesure que Margaret Sullavan et James Stewart évoluent de l'arrière-boutique à la boutique, à chaque illusion que James Stewart fait perdre à Margaret Sullavan, il éteint ou elle éteint une lampe jusqu'à la fin de la scène où il se retrouve dans le noir. Donc ça n'est plus du tout le gag pour faire rire, c'est là une idée de mise en scène qui sous-tend un climat émotionnel extrêmement fragile et ça nous démontre, je crois, assez bien l'évolution du style de Lubitsch. J'aime beaucoup également ce grand travelling arrière qui monte à des hauteurs assez conséquentes dans Le ciel peut attendre, alors qu'il est en train de cadrer un couple qui valse. Et quand la caméra est à bonne hauteur, le commentaire nous apprend que c'est la dernière fois que cet homme et cette femme ont valsé ensemble, puisque quelques semaines plus tard, cette femme mourait. C'est comme si tout à coup l'esprit, l'âme même de cette femme s'envolait avec la caméra à ce moment-là.
Conflit fondamental de Lubitsch, c'est la vie absolument, totalement, radicalement contre l'existence. Malheur à ceux qui ne veulent qu'exister chez Lubitsch. Vraiment, la consigne de Lubitsch est vivez, 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 vivez. Chaque instant, brûlez tous vos instants. Après, ça n'a aucune importance. Avant, ça n'a pas finalement d'importance. Ce qui compte, c'est tout de suite. C'est vraiment la morale, la plus grande morale épicurienne. Donc, en même temps, quand je dis morale épicurienne, c'est une morale très, très élevée. Le christianisme, et c'est un peu le sujet au nom de la rose de Eco, a voulu complètement détruire l'épicurisme, la morale matérialiste, qui est une morale aussi spiritualiste par la même occasion, des Grecs, et a tout fait pour dire l'épicurisme, c'est petite chose. En réalité, c'est la très grande morale. Et c'est ce qui est très lobitchien, c'est-à-dire que chez Lubitsch, la mort est tout le temps présente. C'est-à-dire qu'on ne peut goûter réellement chaque instant de la vie que si on sait qu'il est le dernier. Bon, et s'il n'est pas le dernier, tant mieux. Mais il faut le goûter comme le dernier instant. Veuve joyeuse, pour moi, c'est un grand film de mort. Un grand, grand film superbe, mais où la notion de mort est présente. Et en particulier, c'est très beau dans la façon dont c'est filmé, les valses, la façon dont les danseurs entrent dans le cadre sur une sorte de damier noir et blanc. Enfin, les hommes sont en noir, les femmes sont en blanc. Une espèce de jeu de noir et blanc sublime. Et là encore, on a l'écran se remplit, l'écran se vide, il y a vraiment une sensation. Tout cela est passager, mais quel plaisir dans ce passager. obligatoirement pour la séduction, puisque au moins il y a un plaisir forcé. Enfin, dans le plaisir, il y a un plaisir capital qui est le plaisir amoureux. Donc il faut séduire, ça fait partie du jeu. La séduction, c'est forcément semer du trouble et faire vaciller tous les cadres rigides. Donc de ce point de vue, on est obligé en effet de troubler et de séduire. Donc chez Lubitsch, on trouble In Paradise, mais en même temps, on trouble In Paradise dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans ce cadre social qui n'est qu'un jeu, qui n'est fait que de lois purement, finalement, hypocrites, il faut aller droit au but, il faut être honnête. Et pour être honnête, il n'y a qu'une seule façon, être escroc, sinon on n'est pas honnête. Donc on est totalement escroc, et on trouble le paradis. Le paradis, on dirait presque dire le paradis fiscal. C'est ça, troubler une paradise.
C'est ça. Il y a toujours chez Lubitsch cette notion de décrochage, de dérive.
Oui,
de...
mais c'est parce que ça est lié à une autre notion, elle aussi liée à l'argent. Je dirais même que c'est le sens le plus profond. Bon, c'est pas faire un secret que de dire que Lubitsch est juif. Bon, juif berlinois. Ce qui les distingue beaucoup des juifs viennois de la même époque, qui ont une autre culture et qui donneront des très grands cinéastes aussi. Mais on ne peut pas mettre Lubitsch avec Fritz Lang, par exemple, ou avec Stroheim. C'est pas la même culture. Mais dans ce côté juif berlinois, d'origine, ses parents sont des petits fourreurs. Alors, et lui, les étoffes, la fourrure, tout ce qui chatoie le fascine au plus haut point, c'est quand même le cinéma de la robe de la femme, enfin les plus belles robes de femme, et les femmes portant les plus belles robes, et les femmes transformées presque en robes tellement elles sont soyeuses, ça c'est Lubitsch. Satin et soie, c'est vraiment Lubitsch. Bon, alors, dans ce sens-là, il y a, si vous voulez, chez lui, poussé au maximum la plus haute idée de la notion de la spéculation, qui devient carrément la notion la plus philosophique des termes. C'est-à-dire que l'argent est spéculé, mais spéculé comme la plus haute valeur, ou en tout cas considéré comme telle. Donc, la valeur qui chatoie, la valeur qui miroite, la valeur qui brille. Et ce brillant devient les sortes d'éléments d'attraction de tous les personnages. Mais par là même, il devient dangereux parce que, justement, il n'est que miroitement et donc trouble, fascination, illusion. Et chez Lubitsch, on spécule, mais pas dans le sens bêtement financier. Quoique si, il y en a justement les personnages qu'on, je ne dis pas qu'on méprise, mais les personnages ridicules, eux spéculent financièrement et bêtement, alors que les autres spéculent sur l'estime, dans le sens estimation, mais aussi estime dans le sens moral, de tous les éléments. Bon, il faut estimer l'autre dans tous les sens possibles. Il faut que chacun soit un diamant qui brille absolument. Alors, ce qui est merveilleux dans Trouble in Paradise, c'est que les diamants sont obligés d'être des diamants faux par rapport aux diamants vrais qui, eux, sont faux, bon, etc. While you embrace just the one that you adore, with magic powers, you need no garden filled with flowers to taste the thrill of sweet $3. Gentle perfume and cushions that are still
soft. Nous sommes maintenant à l'Opéra Garnier.
Oui.
Nous sommes dans le déambulatoire,
voilà.
Derrière les loges.
Alors, il y a une scène très très célèbre dans Haute-Pègre qui se passe à l'opéra. Et en fait, l'opéra, c'était important pour Lubitsch, parce que c'était sa conception un peu de spectacle total qu'il essayait, lui, depuis l'arrivée du cinéma parlant, de mettre en place avec ses films, qui étaient, ses premiers films parlants étaient des films musicaux, avec du dialogue, du drame, du visuel, enfin bon... Pour lui, c'était un petit peu ça, l'opéra. Il parlait de pantomime musicale. Donc cette scène est un petit peu construite en hommage à cette conception du spectacle. Alors, nous sommes à l'opéra où Mariette Collet, jouée par Kay Francis, est avec ses deux prétendants un peu plus âgés et passablement ridicules, qu'elle va y conduire pour du film. Et alors dans la salle, il y a aussi Gaston, le héros du film, qui est un voleur, un escroc. Nous sommes donc dans la loge de Mariette. C'est l'ouverture de l'opéra. Et elle y assiste avec un de ses deux prétendants. L'autre va se faire et conduire rapidement. Donc elle est avec un chevalier servant. Pendant cette séquence assez longue qui se déroule à l'opéra, il y a une chose qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'on ne verra jamais ce qui se passe sur la scène.
You should be ashamed of yourselves. Two men of your standing always quarreling.
Well, he started it.
But you're the more intelligent one.
That's true.
Then why did you do it?
Because I hate him, because I love you.
You should have more self-control. You were in the army.
Well, he was in the navy. Goodbye.
I want you to go out and apologize. Immediately.
See here, my good man. You've been saying goodbye for the last half hour and staying on. I wish you'd say how do you do and go.
De la même manière qu'on ne voit pas ce qui se passe sur la scène de l'opéra, on ne voit pas non plus l'action réelle du film. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on reste dans le couloir derrière les loges à essayer d'apercevoir les gens qui entrent et qui sortent des loges avec l'air plus ou moins accablé ou paniqué parce que il y en a une qui a perdu son sac, il y a l'autre qui l'accompagne. Et puis, du coup, les mauvaises personnes entrent dans les mauvaises toilettes. Enfin, bon, ça intéresse plus, à mon avis, Lubitsch, cette espèce de petit balai des portes et des couloirs que l'action proprement dite. Et pourtant, le spectateur saisit toutes les informations qu'il faut pour continuer à suivre l'intrigue. Hein. Ça, c'est quand même très important. C'est quand même au service d'une histoire qui se déroule. Il y a une scène célèbre à la fin de To Be or Not To Be où il reprend ce jeu du couloir où il y a Hitler qui est censé assister à une représentation et toute la troupe qui fait une mise en scène justement dans ce même espace qui est celui du couloir derrière les loges, avec aussi les toilettes où il y a un comédien qui se déguise et qui ressort en costume de juif pour provoquer l'émeute entre les nazis. Donc c'est déjà, il y a la mise en place de ce décor qu'il affectionne et puis qu'il se plaît à reproduire dans ses films d'une séquence à l'autre. Hein. Il y a une autre séquence célèbre d'opéra, c'est dans Monte Carlo, où il y a tout le dernier acte d'un opéra qui s'appelle Monsieur Beaucaire, qui sert de révélation à l'intrigue amoureuse du film. Et il y a une sorte de va-et-vient et de jeu de cache-cache, cette fois-ci entre ce qui se passe vraiment sur la scène et ce qui se passe dans la loge, et qui est la résolution de toute l'intrigue amoureuse.
Born here.
Now what made you decide to die?
Him.
What do you want from the Führer?
What does he want from us? What does he want from Poland? Why, Horses? Why? Why? Aren't we human? Have we not eyes? Have we not hands, organs, senses, dimensions, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, cooled and warmed by the same winter and summer? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? If you wrong us, shall we not revenge?
Lieutenant Slangen Schneider.
Yes, sir.
Yes, take sir. Charge of this man and bring him to my headquarters. I want to question him. Now, men, I don't want a word to leak out about this incredible incident. Who's in charge here?
I am, sir.
How could anything like this have happened?
I don't know, sir.
You don't know, that's just it.
That's how you safeguard our Führer. My Führer, it is my duty to advise you to leave immediately.
Il est évident que chez Lubitsch, je vais vous dire tout de suite qu'il y a un décor qui est indispensable chez Lubitsch, c'est le lit. Parmi le décor, il y a les portes et le lit. Bon. Alors, une porte ne cache pas toujours un lit, mais au bout des portes, il y a forcément un lit. C'est le but. Donc, là, on est au premier étage, donc les lits sont là. Et les portes sont là. Alors, où sont les personnages ? Dans quel lit sont-ils ? Vont-ils au lit ? Etc. Enfin, il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de laisser le spectateur à son imaginaire et laisser courir cet imaginaire. Donc, on va filmer un espace vide qui est le palier de ce premier étage. Bon, superbe palier, évidemment, nous sommes chez les gens riches. Deux portes, une horloge au milieu. On regarde l'horloge, c'est pour dire, ah, tiens, le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Et puis, eh ben, la caméra, elle va à droite, elle va à gauche, elle cherche, elle veut savoir, la caméra. Et pendant ce temps-là, le spectateur, il veut savoir. Donc, d'un seul coup, on attend qu'ils sont à la porte de gauche, chez Madame Collet. Bah, patatras, non, ils sont à la porte de droite. Alors, pour ça, on voit monter un domestique qui vient transmettre un message à Madame Collet, alors qu'ils sont deux portes à chaque fois. Donc, en même temps, on découvre où sont les protagonistes, etc. Et tout étant fait sur la pure suggestion, c'est-à-dire au spectateur, et c'est en cela aussi qu'il est un immense cinéaste, c'est-à-dire et c'est donc, qu'il n'est pas descriptible dans les mots, c'est que l'image sert juste de base et de support à l'image du spectateur qui se doit de voir ce que l'image ne montre pas, mais qu'elle suggère évidemment. Et donc à ce moment-là, au spectateur, toujours chez Lubitsch, de finir le travail. Et il ne peut pas le finir, puisque de toute façon c'est infinissable. Donc à ce moment-là, il est porté, et à ce moment-là aussi, c'est une autre chose, bon, vous direz que ce n'est pas directement un morceau, mais en même temps ça revient au même, le spectateur est obligé, mais obligé à l'intelligence chez Lubitsch. Alors par exemple, il y a un film admirable pour ça, c'est L'éventail de Lady Windermere, qui est un film de 1925, d'après Oscar Wilde, qui est un admirable film, qui plaît encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, qui fait rire beaucoup aujourd'hui encore, et où là les portes sont très monumentales. C'est-à-dire qu'il a longtemps conservé le côté porte monumentale des films de l'époque historique par laquelle il a commencé avec les Madame du Barry, etc. Alors, les personnages sont tout petits dans la porte. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la porte est travaillée dans ce sens-là comme élément du cadre social. Alors, si vous voulez, bon, allons un peu plus loin. Porte chez Lubitsch, c'est un cadre. Dans un décor. Un cadre indispensable, il faut l'ouvrir, il faut la fermer pour passer. Bon. Mais cette notion de cadre est reliée à la notion du cadre cinématographique, lui-même relié à la notion du cadre social. Donc, il y a un lien total entre ces éléments. Alors, d'abord, par exemple, dans les premiers films de Lubitsch, il va travailler à fond le cadre cinématographique et jouer ce cadre. Dans L'éventail de Lady Windermere, il y a un moment où Madame Windermere, je crois que c'est elle, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est une femme du monde, d'accord, mais enfin, considérée plutôt mondaine que femme du monde, et qui, dans la haute société, est shocking. Bon, c'était une grande société anglaise. Et à ce moment-là, elle est dans une course, aux courses. Et on la voit partir, elle est comme une espèce de mur, et un homme est en train de la suivre, un homme très élégant, et il y a un immense espace entre les deux au départ, et l'homme s'approche, et le cadre de l'écran se resserre avec lui. C'est-à-dire que peu à peu, à la fin du plan, il y a un immense noir sur la droite, et le cadre visible, c'est vraiment l'homme qui se rapproche de plus en plus de la femme. Et cela, Lubitsch a beaucoup travaillé dans tous ses films au départ. Par exemple, il y a un film, j'arriverai jamais à dire le nom, alors ne me faites pas dire, c'est Bergman, comme ça, un nom comme ça, où alors là, tous les plans ont un cadre différent. Il y a un plan qui est travaillé dans un losange. un plan travaillé dans un triangle, un plan travaillé dans un ovale, un plan travaillé... C'est-à-dire que chez Lubitsch, le cadre est quelque chose de fondamental à sa conception. Car les personnages de Lubitsch sont quand même tributaires de leur cadre social. Et à partir de cela, la porte devient justement le lieu même de ce cadre social, de tous les interdits de ce cadre social et de toutes les transgressions de ce cadre social. Et en plus, une porte, c'est par ailleurs, depuis le XVIIe siècle, l'élément dramatique théâtral indispensable. C'est-à-dire que depuis le XVIIe siècle, depuis que la scène est fermée, que le théâtre est à l'italienne, on entre sur scène par des portes. Tout le monde sait qu'une entrée au théâtre, c'est capital. Une sortie, faire une sortie au théâtre est capital. Et Lubitsch, d'une certaine façon, a poussé à son point culminant l'utilisation de la porte théâtrale que le théâtre ne permettait pas d'obtenir et que seul le cinéma permet d'obtenir. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la conclusion logique de 4 siècles d'art dramatique.
To be or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms.
Chez Lubitsch, la scène est toujours niée. Et il y a toujours un moment où on tourne le dos à la scène, comme par exemple dans To Be or Not To Be, les spectateurs qui quittent immanquablement la salle au moment où la tirade de Hamlet commence.
Oui, c'est un petit peu l'inversion du décor, ça il aime bien ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, le spectacle est dans la salle et les acteurs deviennent des spectateurs. Hein. C'est un petit peu une manière de nous dire que la vie c'est un théâtre, mais aussi de nous dire que son monde à lui, c'est le monde du théâtre. Et bon, il y a un personnage clé dans To Be or Not To Be, c'est celui du souffleur. Hein, on peut se demander si Lubitsch, c'est pas ce souffleur qui souffle aux uns, puis il souffle aux autres ce qu'il faut faire. Une chose intéressante aussi dans le lieu scénique, c'est que ça correspond bien à la géométrie qu'affectionne Lubitsch. C'est-à-dire qu'il y a tous les déplacements qu'il aime dans un lieu comme ici. Hein. Vous avez les escaliers qu'il adore, parce que c'est les changements de niveau. Vous avez les portes qui permettent de passer d'un espace horizontal à un autre espace horizontal. Et puis, il y a les couloirs qui sont la liaison donc, entre les divers lieux et qui sont très souvent circulaires.
Let's go and see. It looks like murder. Mm-hmm. If I'm wrong, Colonel, please correct me. But there seems to be a slight resemblance between me and your late friend.
Has that struck you too?
Oh, definitely, definitely. And you know, I have a terrible suspicion that one of us must be an imposter.
I hadn't thought of that, but now that you mention it, I think you're right.
Now, just for fun, Colonel, which one of us do you think is the imposter?
Oh, I hope you won't consider it impolite, Professor, but there's a general feeling in this room that it's you. Please forgive me.
Oh, certainly, certainly. Do you mind if I play detective?
Go right ahead, Professor Siletsky.
Thank you, thank you. Edmondson's London.
The real Siletsky came from London. The suit was bought in London.
You think it looks bad for me?
Terrible.
His watch is still running, which means he was killed since the real Professor Siletsky arrived in war. This really looks bad for me. You know I'm liable to get shot?
There's a distinct possibility.
And there's no doubt there was a definite purpose. He wanted to look like me?
Or you wanted to look like him.
That's right. That's right. Our hair is cut alike, and even the shape of our beards is somewhat similar.
Not similar. Exactly alike. How long did you know each other?
I just met him here.
Now you're lying. Plain lying. You must have observed him for several months. It takes that long to grow a beard of that kind.
Very good, Schultz. Very good. Excellent, Schultz. Except you forget I may be wearing a false beard.
Very funny. No, Professor, I tell you a better story. Maybe he is wearing a false beard.
Oh, I hardly think so.
Then why don't you convince yourself? Why don't you pull his beard?
Can't do it.
No, you can't, eh? Too sensitive, eh? You can murder a man, you can kill him, cold blood, but you cannot pull a man's beard.
I can't believe it.
Schultz! How dare you put me in this position? I can't rely on anybody.
But Colonel, you gave the order yourself.
Shifting the responsibility on me again? That's all, Schultz.
Goodbye, gentlemen.
Lubitsch est un illusionniste, c'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup dans ces manières de filmer des apparitions, des disparitions, et tout d'un coup des moments où on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas vu comment
c'est le théâtre.
Comment est-ce qu'elle a volé le collier par exemple dans Haute Paix ou le sac enfin.
C'est le théâtre, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de la porte chez Lubitsch dans le sens du théâtre. Il ne faut pas oublier que dans le sens du théâtre et en particulier du théâtre à l'italienne, une des portes qu'on oublie tout le temps, c'est la trappe. C'est la trappe est capitale au théâtre. Chez Lubitsch, la trappe est capitale. Et en effet, ce n'est pas l'illusion. C'est on passe, on surgit de la trappe. Tout le temps. Donc on disparaît, on apparaît. On était là derrière une porte, on n'y est plus, on y revient, etc. Cette espèce de jeu de surprise permanente qui, elle-même, en termes de pure dramaturgie, est l'élément de l'excitation, du plaisir théâtral. Que nous l'avons en permanence. Prenez tout bien, tout bêtement. Alors là, ce n'est que ça du début à la fin. Qui entre, qui sort, qui entre, qui sort, qui sort, qui entre, qui sort. Où est-il passé, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tout au bien, Toby, c'est faire apparaître, faire disparaître, faire un personnage a été tué, un autre prend sa place, on prend la place d'Hitler, etc. Enfin, ce n'est que substitution, travestissement, maquillage, illusion permanente. Mais pas illusion permanente, c'est pas une illusion. C'est pas un illusionniste. Disons que c'est plutôt le précipitateur. C'est top, apparaît disparition. Et la notion de la trappe. Par exemple, dans To Be or Not To Be, vous avez un moment superbe hein, dans cette notion-là, qui est magnifique, évidemment. C'est le moment où la femme va à la Gestapo. Et elle y va en robe du soir, sublissime, évidemment, satin. Et si vous regardez bien, d'un seul coup, elle apparaît en plein centre de l'écran, elle monte un escalier, comme si elle montait la trappe. Enfin, une trappe royale. Magnifique. Mais dans le sens véritable. Car, en effet, elle entre par la trappe, mais pour être entièrement attrapée, puisque l'hôtel dans lequel elle rentre, c'est l'hôtel de la Gestapo, qui est une espèce de prison et de piège dont on ne peut pas sortir. C'est vraiment fabuleux, la pensée de Lubitsch. Une sorte d'investissement de tous les éléments de la dramaturgie théâtrale qui l'a poussé au maximum, je répète, dans ses possibilités cinématographiques.
Myself.
That's not in the script.
But Mr. Dobosh, please.
That's not in the script, Mr. Brunsky.
But it'll get a laugh.
But I don't want a laugh here. How many times have I told you not to add any line? I want...
You want my opinion, Mr. Dobosh?
No, Mr. Greenberg, I do not want your opinion.
All right, let me give you my reaction. A laugh is nothing to be sneezed at.
Mr. Greenberg, I hired you as an actor, not as a writer, understand? No, what does the script say?
I make an entrance.
And what do you say?
Nothing.
Then say nothing.
But look,
no, let me get going with that rehearsal. I have to come in. Tonight.
Here am I sitting waiting for my scene, all eager to go, and I have to wait and wait to be driven out of my mood just because two little actors in the cast want to enlarge their parts.
Mr. Ravitch, what you are, I wouldn't eat.
How dare you call me a ham?
Folks, I want everybody to understand this. This is a serious play, a realistic drama.
Good morning, Dobosh.
Good morning, ma'am.
How do you like my dress?
Very good, very good. It is a document of Nazi Germany. Is that what you're going to wear in the concentration camp?
Well, don't you think it's pretty?
That's just it.
Well, why not? I think it's a tremendous contrast. Think of me being flogged in the darkness. I scream, suddenly the lights go on, and the audience discovers me on the floor in this gorgeous dress.
That's a terrific laugh.
That's right, Greenberg. You keep out of this. Not a great star, an artist, could be so inartistic. You must be out of your mind.
What do you mean by talking to my wife like that? How dare you?
Well, I'm sorry, I lost my temper.
Le jeu de l'acteur compte énormément chez Lubitsch. Bon, parce qu'évidemment, Lubitsch était lui-même un ancien acteur, parce qu'il avait cette étrange méthode qui consistait à jouer lui-même le personnage tel qu'il le voyait, puis à dire à l'acteur « faites comme moi », ce qui est une méthode vraiment complètement opposée à tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, nous qui connaissons les méthodes de l'acteur studio plus récemment, etc., on rêve vraiment, ça nous laisse complètement rêveurs d'imaginer un réalisateur qui dit voilà, en fait, voilà, il faut faire ça, il fait tous les personnages, il fait des femmes, il fait des jeunes filles, il fait des jeunes gens, il s'agite, il lève les bras, il lève les jambes, il dit voilà, il faut faire comme ça.
Et ça marchait, sa méthode.
Oui, ça marchait, oui, bah, ça marchait, voilà qu'à voir les films, ça marchait superbement. C'est vrai qu'aussi, il a eu toujours affaire à un des acteurs extraordinaires dans tous les registres. même si c'est vrai qu'il a relativement peu tourné aux États-Unis avec des très très grandes stars. Il a tourné avec quelques grandes stars, mais disons qu'il y avait des espèces de stars maison, si j'ose dire, chez Lubitsch, comme je pense par exemple à quelqu'un comme Miriam Hopkins, cette petite blonde très 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 espiègle qu'on voit dans certaines de ces grandes comédies américaines, bon, qui sont effectivement des vedettes, qui ont joué dans très nombreux films, et qui gardent quand même particulièrement la marque de fabrique de Lubitsch.
Thank you, Mrs. Tudor, for receiving me. If you knew how I was looking forward to this moment.
And now you're probably disappointed.
Oh, Mrs. Tudor.
Oh, please sit down.
Thank you.
Oh, so you're the gentleman that sent me those lovely flowers. Thank you. You know, somehow I pictured you quite differently as a dignified old gentleman. And now I see you, I wonder if it was really the right thing to ask you back here. You see, I never see strangers in my dressing room.
Oh, but you're no stranger to me, Mrs. Tudor. I've seen you in everything you ever played. I'll never forget how I laughed when I saw you as Kiki.
Some people thought I was funny.
But you certainly weren't funny when you played Lady Macbeth.
Thank you.
I was really scared of you that night.
Oh, poor little me. Oh, I wouldn't hurt a fly.
Or a goldfish. By the way, how is he?
Who?
The goldfish.
What goldfish?
Oh, the one you're so attached to. You see, I read all your interviews.
Oh, yes. Oh, yes, of course.
And when I saw that picture of you in the farm, you behind the plow. By the way, where was that?
In the Chronicle.
Oh, no, I mean, where's the farm?
Oh, no, I think we've talked much too much about me. Tell me about yourself.
Well, there isn't much to tell. I just fly a bomber.
Oh, how perfectly thrilling.
I don't know about it being thrilling, but it's quite a bomber. You might not believe it, but I can drop 3 tons of dynamite in 2 minutes.
Really?
Does that interest you?
Certainly does.
I don't want to overstep myself, but I'll take a chance. Would you permit me to show you my plane?
Maybe.
When shall I call for you?
Tomorrow at 2 o'clock at my home. No, I better meet you right at the airport.
Goodbye. I hope you forgive me if I acted a little clumsy, but this is the first time I ever met an actress.
Lieutenant, this is the first time I've ever met a man who could drop 3 tons of dynamite in 2 minutes.
Bye. Hello.
Oui, Robert Stack?
Yes.
Est-ce que vous vous souvenez donc du rôle du capitaine, du jeune aviateur Sobinski dans To Be or Not To Be?
Well, we worked together on it, and he would tend to exaggerate.
Nous avons travaillé ensemble. Et il exagérait toujours une scène pour en donner le sens.
It's hard to explain exactly what I mean. He would say, "Try this, Bobby. What do you think of this?"
Il disait, "Essaye comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?"
Give me the key. I don't know if you understand what
I'm saying. Il donnait la clé de la scène à travers l'exagération.
And I understood what he meant, and he was wonderful. I had a lovely time with him. He was a wonderful director.
C'était un merveilleux metteur en scène. Et il adorait les acteurs. Il ne croyait pas en l'improvisation.
Oui, je comprends très bien. Par exemple, vous souvenez-vous de la scène où vous quittez la salle lorsque Toura commence à dire le texte de Hamlet, « To be or not to be ». À ce moment-là, vous sortez, vous, et vous allez retrouver Maria Toura. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous disait? Vous disiez, il exagérait toujours, il essayait de nous montrer en exagérant.
Non, pas toujours. Il m'a dit, par exemple, quand je suis... Quand it's much easier in English. Quand
yes, okay.
Le théâtre pour voir Maria Toura quand Jack Benny était on stage.
Yes.
Il a dit I asked him. Je lui ai demandé qu'est-ce que je crois maintenant, qu'est-ce que j'ai dans la tête quand je sors, qu'est-ce que vous voulez que je montre sur les visages. Il a dit rien du tout.
Oui.
Pensez de rien. Seulement, il faut vous le lever. Et sortir, et c'est ça, sans expression. And that's how it happened.
Okay, so that's what you did.
That's what he did there, yes. And he didn't direct all the time.
Il ne dirigeait pas tout le temps.
You had a very experienced cast. You had a great comedian.
À vrai dire, il faisait de très bons castings, utilisait de très bons comédiens.
We would work on the scenes together, but I don't remember his giving all kinds of direction.
Okay,
he didn't just get up and direct everyone. He would.
Il laissait souvent les acteurs jouer eux-mêmes.
If the scene played, he would leave you alone.
You are very young when you played that part. Was it one of your first parts?
Yes, it was my second.
C'était mon
second
rôle.
One. So it was a great luck to work with Lubitsch.
It's great luck all the time. Finalement, il était un homme très gentil, très doué, une combinaison de toutes les choses comme producteur, acteur, comme écrivain, scénariste, peinteur. He did everything. He was the only man I knew, le seul qui pouvait faire toutes les choses. Vous savez?
Oui.
Il n'était pas seulement un maître en scène, il était une combinaison de tous les autres. C'était pour ça qu'il était et très délicat, avec un with a touch very very delicate he was a genius. He was wonderful.
C'était un génie. J'étais très fier de travailler avec lui.
Lubinsky, Kubinsky, Lominsky, Rosansky and Poznansky. We're in Warsaw, the capital of Poland. It's August 1939. Europe is still at peace. At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache, Adolf Hitler. Adolf Hitler in Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself? He seems strangely unconcerned by all the excitement he's causing. Is he by any chance interested in Mr. Maslovsky's delicatessen? That's impossible. He's a vegetarian. And yet he doesn't always stick to his diet. Sometimes he swallows whole countries. Does he want to eat up Poland too? Anyhow, how did he get here? What happened? Well, it all started in the general headquarters of the Gestapo in Berlin.
Heil Hitler.
Lubitsch avec Hitler, le rapport est direct. C'est-à-dire, Lubitsch quitte l'Allemagne en 1923-24. Il est le plus grand metteur en scène allemand à l'époque. Il est celui qui a sauvé le cinéma allemand, puisqu'il a avec même du Barry, le cinéma allemand se répand dans le monde entier, et ça va plus loin que ça. C'est celui qui a sauvé l'économie allemande, puisque avec le traité de Versailles, les Allemands n'ont plus droit à aucun marché. Enfin, c'est devenu presque un pays presque colonisé, dominé par ses vainqueurs. Il faut essayer de vaincre ce blocus hypocrite économique. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les Allemands financent Madame du Barry. On prend Madame du Barry parce que c'est un sujet français, etc. C'est pas allemand. Et Madame du Barry sort à New York. Ça fait scandale. Des associations d'anciens combattants, manifestants, etc. Bon, mais malgré tout, le film est un très grand succès. Puis ensuite, le film va venir à Paris, en 21 ou 22, je ne sais plus combien. Et là aussi, manifestation de tous les anciens combattants, etc. Toutes les croix de guerre mal aimées qui se promènent et qui hurlent à l'invasion allemande. Bon, enfin, je ne vais pas en parler d'un terme d'invasion, vous pourrez croire que je fais de la politique d'aujourd'hui. Mais il a réouvert, grâce à ce film, le marché, enfin les marchés, la possibilité de l'économie allemande. Donc il part en 24, malgré tout, il s'installe à Hollywood. Alors, il y a eu une sorte de rejet de Lubitsch qui a quitté l'Allemagne, quel scandale, s'est vendu aux Américains, tout le reste. Évidemment, chose immédiatement reprise par les nazis dans leur propagande, d'autant plus, avec d'autant plus de plaisir que Lubitsch est juif. Donc, et que Lubitsch n'a jamais caché en plus. Donc, on va le dire. Et à ce moment-là, ça devient, en fait, entre Lubitsch et Hitler, un rapport personnel. Beaucoup plus, en fin de compte, de rapport personnel. Bon, quoi que oui, non. Qu'entre Chaplin et Hitler, ou qu'entre Fritz Lang et Hitler. Quoique Chaplin, non, parce que Chaplin a été aussi attaqué que Lubitsch. Mais Lubitsch règle réellement son compte. Et si vous regardez bien To Be or To Be, le sujet est très précis. C'est dans la toute première séquence de To Be or To Be, c'est ou c'est Hitler, ou c'est moi. C'est-à-dire, moi Lubitsch. C'est-à-dire, ou c'est un ordre de société qui est justement fait sur l'ordre militaire, l'uniforme, ou bien c'est Lubitsch, c'est le chatoiement du plaisir de vivre. Et le sujet de Toby en Toby, c'est ça. C'est ou bien c'est Lubitsch qui gagne, ou bien c'est Hitler qui gagne. Et c'est la même chose avec Ninotchka. Alors, Nenochka, il y a eu un petit problème, c'est simplement que Lubitsch est allé en Russie, en 35-36, je ne sais plus quelle année. Et là, il était plutôt favorable au régime, bon, il n'était pas antipathique. Et puis là, il s'est rendu compte de ce que c'était que la Russie staliniste. Et en plus, il est venu, à ce moment-là, prendre déjà des idées pour Nenochka. Et quand il est rentré, il a fini Nenochka, parce que, au fond, Lubitsch ne pouvait pas, c'est évident, un homme comme ça, qui a une telle morale épicurienne, ne peut en aucun cas accepter aucun des deux totalitarismes. Donc, c'était tout à fait logique que Lubitsch intervienne sur ces deux films. Curieusement, Nenochka aujourd'hui devient un film tout à fait prophétique. C'est tout à fait étonnant.
Can I be of any assistance to you?
You might hold this for me.
I'd love to.
Correct me if I'm wrong. We are facing north, aren't we?
Facing north? Well, now, I'd hate to commit myself without my compass. Pardon me, are you an explorer?
No, I'm looking for the Eiffel Tower.
Good heavens, is that thing lost again? Oh, are you interested in a view?
I'm interested in the Eiffel Tower from a technical standpoint.
Technical? No, I'm afraid I couldn't be of much help from that angle. You see, a Parisian only goes to the tower in moments of despair to jump off.
How long does it take a man to land?
Now, isn't that too bad? The last time I jumped, I forgot to time it. Let me see now. The Eiffel Tower. Your finger, please.
Why do you need my finger?
It's bad manners to point with your own. There. The Eiffel Tower.
And where are we?
Where are we? Now, let me see. Where are we? Ah, here we are. There you are, and here am I. Feel it?
I'm interested only in the shortest distance between these two points. Must you flirt?
Well, I don't have to, but I find it natural.
Suppress it.
I'll try.
For my own information, would you call your approach toward me typical of the local morale?
Mademoiselle, it is that approach which has made Paris what it is.
You're very sure of yourself, aren't you?
Well, nothing's happened recently to shake my self-confidence.
I have heard of the arrogant male in capitalistic society. It is having a superior earning power that makes you that way.
A Russian? I love Russians. Comrade, I've been fascinated by your 5-year plan for the last 15 years.
Your type will soon be extinct.
Taxi!
Bean, cette fois-ci, c'est l'hôtel Intercontinental, un des grands hôtels qui peut être le lieu des films de Lubitsch.
Oui, l'hôtel, c'est comme Paris est par définition un lieu de transit et d'escale, c'est le lieu aussi des nuits d'amour. Donc le Grand Hôtel est une des deux possibilités d'escale, c'est-à-dire il y a les deux extrêmes, soit l'hôtel de luxe 5 étoiles, je dirais, soit la petite mansarde pour les gens qui sont fauchés.
Ça, c'est Serenade à 3.
Ça, c'est Serenade à 3. Et en revanche, quand Nenochka débarque dans l'hôtel et qu'on lui montre la suite où elle va habiter, elle dit « Mais vous m'avez loué quelle partie de la chambre ?»
C'est la suite royale, quand même.
C'est la suite royale, en plus. Et les trois commissaires soviétiques ont beaucoup de mal à lui expliquer qu'en fait, c'est très difficile. Ils ont pris la suite parce qu'il y avait le coffre-fort pour pouvoir mettre les bijoux qu'ils sont venus récupérer. Mais qu'eux ont bien entendu préféré une petite chambre qui n'est pas du tout la suite royale. C'est un décor immense et c'est peut-être un petit retour aux sources de certaines racines théâtrales de Lubitsch. Ces mises en scène de Max Reinhardt à Berlin où on se plaisait à isoler un personnage dans un immense décor ou au milieu d'une foule. Et bon, ce genre de gigantisme sied parfaitement au cadre des grands hôtels parisiens.
Ainsi que les accessoires, le champagne par exemple.
Oui, alors le champagne, il ne faut pas oublier que le bouchon de champagne qui saute, c'est un petit peu, il est assimilé à un coup de feu qui est l'exécution de tous les tabous de Nenochka qui va enfin se révéler une femme amoureuse, drôle, élégante et qui va apprendre finalement sa propre frivolité à Paris.
Dance. Something is the matter.
You just made that trip from goats to grapes a little too quickly.
Everything is so wonderful. It's getting farther and farther away.
What, darling?
Thursday.
Yes, don't worry. Everything's going to be all right.
Comrades, comrades.
Darling, please.
I want to talk to my brother.
Shh.
Don't shush me, please. I am the people. I want to hold a speech. I will overthrow the Grand Duchess.
Ninotchka, you can't do that.
Oh, comrades, the good people of France.
No, Ninotchka.
Oh, but they're all Grand Duchesses here. I want to have thousands of Grand Duchesses,
yes,
and I want
to
tell them.
Yes, dear, you're quite right.
Yes.
But first of all, you're going through that door, you're going to lie down and take some spirits of ammonia.
Oh, no speech?
No speech.
Oh, I love you, my little Leonichka.
And I adore you, Ninotchka. Go ahead.
Comment vous les voyez, les femmes de Lubitsch?
Superbe. Il est certainement le cinéaste qui a le mieux filmé les femmes de cette histoire du cinéma. Il faut s'entendre, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont admirablement filmé les femmes. Mais c'est vrai que, c'est logique d'ailleurs, chaque cinéaste les filme à sa manière. C'est au fond comment lui aime les femmes. Alors, de ce point de vue, par exemple, la femme Lubitschienne est moins belle dans le sens américain, du canon américain, que la femme occitane. Bon, qui, elle, c'est vraiment le fuselage, quoi. C'est le parfait fuselage. Bon. Donc, la femme de Lubitsch, c'est d'abord un être de chair dont on va révéler en permanence l'éclat. Et puis, je répète, c'est peut-être un peu inutile de dire ça, mais enfin, la soie de la peau. C'est-à-dire qu'il y a une beauté de la peau que Lubitsch obtient sur l'écran. Enfin, disons que le grain de la peau de la femme s'accorde au grain de la pellicule. Avec tout ça mis en valeur et en évidence avec la lumière, les lumières et les robes. Les femmes sont mises dans un écrin chez Lubitsch. Par exemple, si vous prenez la superbe entrée de Carole Lombard dans To Be or Not To Be, bon, il y a un plan où il n'y a que des hommes, forcément, et des hommes en plus en uniforme nazi, bon, sauf un ou deux. Bon. Et elle entre par le fond de la scène, donc par une porte évidemment, et elle entre royale, en tenue de soirée, tête haute, superbe, entre tous ces hommes, et évidemment, d'emblée, sa simple apparition éclipse tout l'univers masculin. D'un seul coup, c'est l'univers féminin qui entre, et les pauvres hommes, ils n'ont plus qu'à aller se rhabiller. C'est ce qu'ils font en fin de parcours. Et c'est ça, Louis. C'est-à-dire que, par exemple, l'apparition de Carole Lombard vous donne l'idée d'une femme totalement magnifique. Alors, il peut prendre, par exemple, des actrices dont on pourrait dire, elles sont pas belles. Elles sont pas belles dans le sens, là aussi, dans le beau beauté, d'apprendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on sait pas pourquoi on dit d'une femme qu'elle est belle et d'une femme qu'elle est pas belle. Ça veut rien dire. Mais enfin, disons, dans le genre critère courant, Claudette Colbert, dans la huitième femme de Barbe Bleue, on peut pas dire que Claudette Colbert soit une femme belle. Bon. C'est pas un canon en tout cas, mais il la rend superbement belle. C'est-à-dire que ce qui est important chez Lubitsch, c'est que la beauté passe par tout l'éclat de l'être, et l'éclat de l'être passe par la vitalité, la répartie, l'intelligence, la beauté du geste, la beauté de l'attitude, la façon de tenir un corps, et ça, alors il magnifie toutes les femmes dans ce sens-là.
Elles sont toutes intelligentes, c'est vrai.
Elles sont toutes intelligentes, et en plus, elles ont toutes un portée de corps admirable.
I don't look too foolish.
Foolish? If this dress were walking down the boulevard all by itself, I'd follow it from one end of Paris to the other. And when I caught up with it, I'd say, wait a moment, you charming little dress. I want you to meet Ninotchka. You two were meant for each other.
Bin, nous sommes assis sur un banc dans un parc parisien. C'est un peu comme dans Lubitsch.
Oui, alors c'est un peu comme Marlène Dietrich et Melvin Douglas dans Ange. Ce qu'il y a, c'est que les parcs parisiens chez Lubitsch apparemment sont toujours nocturnes. Évidemment, c'est les parcs des amoureux. Et C'est un parc, c'est mieux qu'un jardin privé parce que c'est un endroit un petit peu éphémère où on vient et puis d'où on part. Et Paris, c'est ça pour Lubitsch. C'est pas un lieu où on s'installe, c'est un lieu où on est en transit. On y vient pour oublier ou pour découvrir. Et puis ensuite, on en part pour vivre autre chose, pour s'installer ailleurs. Mais on s'installe pas à Paris. C'est Paris, c'est le Paris des souvenirs, c'est le Paris des rêves, toujours. Les deux scènes de parc les plus célèbres chez Lubitsch, c'est l'ouverture de Une heure près de toi, où les agents de police parisiens ont décidé de faire une razzia morale et donc vont dans les parcs pour empêcher les ébats des amoureux et ont beaucoup de mal à croire que Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald sont en fait un couple marié. Donc il faut qu'ils argumentent beaucoup pour prouver que bien qu'ils soient mariés depuis un certain nombre d'années, ils sont encore à se faire des mamours dans un parc. Bon, ça c'est une chose. La deuxième séquence vraiment célèbre d'un parc lubitschien parisien, c'est Ange, effectivement, où après une soirée merveilleuse de flirt entre Marlène Dietrich et Melvin Douglas, chacun ne sait encore rien de l'autre, sauf qu'ils sont éperdument amoureux. Et ils sont tellement amoureux que la jolie femme va partir en courant du parc et elle va laisser toute seule la bouquetière qui leur a vendu un bouquet de violettes. Et cette dernière va ramasser par terre son petit bouquet et la remettre dans son panier après l'avoir soigneusement époustée.
Et dans cette séquence d'Ange, il y a quand même tout un moment. C'est la nuit, hein.
C'est la nuit, c'est toujours la nuit, les parcs, ouais. Et c'est un
et
peu le moment.
Ils sont un moment assis sur le banc.
Absolument, c'est le moment de la révélation. Il essaie d'en savoir plus parce que l'homme essaie toujours de savoir qui est la femme pour pouvoir l'aimer. Et la femme, c'est l'inverse. Elle lui a dit un peu plus tôt : vous avez de beaux yeux, vous avez du charme, ça me suffit. N'en disons pas plus. Effectivement, on apprendra par la suite que c'est parce qu'elle est mariée et il s'avérera qu'elle est mariée au meilleur ami ou à l'ancien meilleur ami de son amant de passage. Voilà.
How do you do?
How do you do?
So kind of you to see me. I bring your best regards from Captain Buckler.
Captain Buckler?
You remember Willie Buckler. He always talked so much about you, and he told me if you want to have an amusing time in Paris, go straight to the Grand Duchess, and here I am.
And there you are. So you want to have an amusing time in Paris?
Well,
we must see that you have a very amusing time. Sit down, please. Have you been in Paris before?
Not since the war.
How exciting for you.
Yes, I'm thrilled. And I'm so glad to meet you.
Thank you. Be seated, please. You're going to see Paris at its best.
I'm so glad.
Now, let me think. What could I suggest? Oh, first of all, you would like to see the Louvre Museum.
The what?
One of the most interesting picture galleries in the world. You've heard of the Mona Lisa?
Yes, I believe I have.
Oh, you don't care for pictures. Oh, I know. The Eiffel Tower.
You mean that steel thing stuck up in the air? Your Highness, do you know what I'm afraid of?
What?
I'm afraid you're going to suggest Notre Dame.
I was just coming to that.
Madame, even if you could give me the history of each stone separately, I'm still not interested.
Oh.
No, I've found through life the days take care of themselves. It's the evenings that are so difficult.
Oh, how stupid of me. You want me to arrange a party for you. A nice, large party.
Not too large.
Six? Four? Two?
Two is the best suggestion.
La musique aura toujours une importance capitale et ces grandes scènes sont toujours réglées, scandées, rythmées exactement comme une mélodie. C'est le cas de la scène que j'évoquais tout à l'heure à propos de Shop Around the Corner. Mais bien sûr, il en apprend plus que les rudiments, les bases réelles dans ces films musicaux. Ceci dit, le rythme et la musicalité sont extrêmement importants dès les films muets aussi. Hein. Donc c'était un souci constant chez lui qui s'est matérialisé à une époque de sa carrière. Avant même d'avoir le secours de la musique, il y a une fluidité, dans un tempo dans les scènes. On pourrait scander, on pourrait véritablement solfier, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, il y a une scène dans le Prince étudiant qui date de 1927 et qui est un film muet, une scène que l'on peut tout à fait solfier, qui est un moment où Norma Shearer, qui joue le rôle d'une serveuse d'auberge dans le vieil Heidelberg, arrive dans la grande salle de l'auberge avec énormément de chopes de bière à la main et fend la foule des étudiants pour aller déposer les bières auprès de ses clients. Et il y a un énorme mouvement de caméra qui la suit depuis son arrivée jusqu'à la fin de sa course. Et je vous jure que l'on peut solfier cette scène tellement elle a un rythme et un tempo musical.
Alors ça peut aussi nous amener ce tempo au début et aux fins des films de Lubitsch.
Oui.
Parce que c'est peut-être effectivement l'attaque d'un morceau et puis la fin d'un morceau musical.
Ah bien sûr. C'est-à-dire que je crois qu'on reprend les termes musicaux, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture et il y a une coda.
Mm-hmm.
Alors, l'ouverture, eh bien, elle procède très souvent d'un mouvement ample que l'on resserre progressivement sur les personnages ou la situation principale. Et la coda, elle, arrive après la conclusion proprement dite. C'est un prolongement qui reprend certains thèmes de l'ouverture ou certains thèmes que l'on a déjà vus dans le film et qui le reprend sur un autre mode et qui reprend les personnages dans un autre stade de leur existence. Peut-être sont-ils prêts pour d'autres aventures. Par exemple, dans L'homme que j'ai tué, ce film dramatique, on voit très bien ce phénomène de passage de l'amplitude à au précis, puisque on commence par une vision très très large de Paris, en fait, fêtant le 11 novembre 1919, un an après la guerre. Parade de soldats, et puis il introduit dans ce rythme musical quelques notes discordantes. La parade de soldats est vue, la caméra étant placée dans le trou que laisse la jambe d'un soldat amputé qui est perdu parmi la foule. Donc il y a déjà une note discordante, grande vue ample de Notre-Dame à l'heure de la grand-messe, et là aussi les bottes brillent, les épées rutilent, et la caméra, à mesure que l'église se vide et que la messe se termine, s'approche lentement d'un point lumineux qui apparaît dans l'ombre de la cathédrale, et là on s'aperçoit que ce sont deux mains jointes, et on s'aperçoit que derrière ses mains jointes, il y a un homme effondré derrière un prie-dieu, le drame peut commencer.
Mmh.
Et un exemple de finale de coda nous est donné par exemple dans La Folle Ingénue, où une fois que Charles Boyer et Jennifer Jones sont réunis dans le train et filent vers le bonheur, il éprouve le besoin de faire un prolongement uniquement musical qui n'est absolument pas dialogué, qui se passe à New York et qui voit la réalisation de tous les rêves qu'ils ont fait quand ils étaient en Angleterre.
Et ça, on peut le retrouver, par exemple, dans Haute Pègre ou dans To Be or Not To Be, de la même manière.
Absolument, oui, absolument. On le retrouve dans To Be or Not To Be. La coda reprend en fait l'ouverture, puisque la première scène et la dernière scène sont tout à fait comparables à quelques variantes près.
Mm-hmm.
Il utilise cela souvent aussi, il y a le thème du refrain. Ces films ont des refrains qui reviennent périodiquement. Dans To Be or Not To Be, la scène du monologue d'Hamlet et de l'admirateur de l'acteur principal qui se lève au moment du monologue d'Hamlet pour aller rejoindre l'actrice dans les coulisses est répétée au moins 3 fois, si mes souvenirs sont exacts.
Moi, ce qui me fait hurler de rire, ça fait déjà partie ça, de mon mauvais esprit, c'est que pendant, surtout en France évidemment, en France on disait la légèreté de René Clair et la lourdeur de Lubitsch. Bon. Alors qu'aujourd'hui, la lourdeur de René Clair est tellement flagrante et la légèreté de Lubitsch est tellement évidente tout autant qu'il y a de quoi rire. Bon. Non, Lubitsch, l'humour, il est multiple chez Lubitsch. Il y a d'abord un humour, disons, de communauté. Il y a l'humour juif. Et puis l'humour juif berlinois. Il faut toujours situer les choses. Hein, parce que, je répète, juif viennois, ce n'est pas une chose. Donc, par exemple, les juifs viennois n'ont pas d'humour. Hein. Il n'y a pas vraiment l'humour de Stroheim, l'humour de Sternberg ou l'humour de Fritz Lang. Bon, c'est de l'humour. Si, il y en a un qui a de l'humour. Il y en a un qui a d'ailleurs travaillé avec Lubitsch. C'est Billy Wilder, qui était le successeur, qui se considère un peu comme le successeur de Lubitsch. Mais même Wilder est quand même plus grinçant, plus lourd. Enfin, le viennois est plus lourd que le berlinois. Bon, maintenant, à chacun d'en tirer les conséquences. Donc, il y a cet humour juif, yiddish, berlinois. Bon, ça, il y est. Et il est très, très, très sensible, cet humour, dans les tout premiers films de Lubitsch, quand il est encore acteur et qu'il devient le grand comique allemand pendant la guerre.
Et quand il joue avec, ce personnage
son personnage de Pincus. Dans Schumacher, bon, tout le monde a compris. Non, Schumacher, Palace, enfin, je sais quoi, c'est un truc de marchand de chaussures où c'est très drôle, avec des choses très très drôles. Et là, il a l'humour juif total, avec l'humour boutiquier, c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment l'humour yiddish, boutiquier, la petite boutique, quoi. Comment on fait des ventes, enfin bon, des trucs. Et c'est très drôle, c'est bon. Et avec cet humour-là, et qu'on retrouve évidemment admirablement décanté dans le sublime La petite boutique autour de la rue, là.
Chaperon de Corner,
qui est une pure merveille, et qui est alors là vraiment la descendance directe de Pincus. Alors ensuite, il y a un autre humour. Qui va être, disons, l'adaptation de son humour à l'humour américain. Il y a d'abord, deuxième point, l'humour adapté à la comédie européenne et très marqué par la comédie, je dirais pas française, mais à la française. Lubitsch a joué en tant qu'acteur, il a joué Molière, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la comédie à la française, connaît bien le vaudeville, et connaît aussi forcément Oscar Wilde, il connaît les Allemands, etc. Il y a tout ce côté brillant de la comédie européenne, et ce n'est pas pour rien qu'à Hollywood, il va faire tout son succès à Hollywood sur l'européen, l'esprit européen par rapport aux Américains, ce qui lui permet justement d'être un tout petit peu audacieux dans les mœurs, ce qui ne serait pas possible pour des purs Américains. Bon, le puritanisme, c'est-à-dire que Lubitsch peut affronter le puritanisme américain parce que c'est un Européen, c'est l'esprit européen, ça se passe toujours en Europe, la plupart, la quasi-totalité des films de Lubitsch se passent en Europe, etc. Alors, il y a cet esprit d'humour, je dirais, de la fin du siècle dans la comédie européenne. Et puis, il y a troisième humour qui va se joindre, parce que ça, il a une faculté d'assimilation des humours qui sont tout à fait étonnants, qui est l'humour américain. Quand il sera en Amérique, il va vraiment prendre à son compte l'humour américain, dans le mot, dans la réplique, etc., dans l'attitude, et ça sera une troisième forme d'humour. Et puis en plus, il y a quand même l'humour personnel de Lubitsch, qui lui bon, fait le liant de toute la, et fait prendre la sauce de toutes les sauces. Et cet humour personnel est un humour, en fait, moi je trouve très grave. C'est-à-dire quelqu'un qui rit mais je répète, qui rit parce que il sent au fond profondément la mort, que tout est mortel. Et il en rit. C'est cet humour-là qui finalement fait la grande force de Lubitsch. Chez Lubitsch, il y a vraiment... mais cela se sent chez le spectateur. Il y a une fin de film chez Lubitsch qu'il faut arracher par une pirouette aux larmes. Toute la fin de film de Lubitsch sont des pirouettes, oui. Enfin, un dernier rire avant.
I need a glass of champagne.
Mardi du cinéma, Ernst Lubitsch, avec Jean Doucher, Christian Viviani, Ntebin Yantobin, Jacqueline Nakache et Robert Stack. Les livres, Ernst Lubitsch par Jacqueline Nakache, édition Edilig. Lubitsch par Ntebin et Christian Viviani, édition Rivage Cinéma. Remerciements à l'Opéra Garnier, la Société Nationale d'Exploitation de la Tour Eiffel, le Jardin du Luxembourg, le Restaurant Maxim's, l'Hôtel Intercontinental. Ernst Lubitsch par Simone Dweck. Prise de son Yves Bardet, Jean-Pierre Gerbeau, Patrice Klein. Mixage Michel Kreis, Guillaume Balex. Réalisation Josette Collin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 mars 1992.